Info matin, Nicolas Legrand.
Manuel Valls veut sauver l'accord de Bougival. Le ministre des Outre-mer est arrivé hier soir pour une visite de 4 jours en Nouvelle-Calédonie. Objectif, poursuivre le dialogue autour de l'accord, mais aussi installer le comité de rédaction. Jacques Lallier entend reprendre son siège de président de l'Assemblée de la province des Îles ce vendredi. Il a d'ailleurs écrit à son successeur Mathias Ouaneux. Explication dans ce journal. Dans l'actualité internationale, vers une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky dans les 2 semaines. Une réunion qui pourrait avoir lieu en Suisse. En métropole, Gérald Darmanin veut lutter contre les mariages blancs. Il a d'ailleurs adressé une circulaire au préfet pour éviter les unions de complaisance. Le sport, du football, et c'est déjà la crise à l'OM. Le week-end dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont violemment accrochés dans le vestiaire. 2 joueurs déjà sanctionnés et qui figurent désormais sur la liste des transferts. La météo en Nouvelle-Calédonie, toujours un temps gris avec des pluies généralement faibles et intermittentes. Le vent se renforce en cours de journée jusqu'à 40 nœuds en rafale. Quant aux températures maximales, elles descendent légèrement de 20 à 24 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, la visite ministérielle.
Oui, Manuel Valls est donc arrivé hier soir sur le territoire pour une visite de 4 jours. C'est le 4e déplacement en Nouvelle-Calédonie du ministre des Outre-mer depuis le début de l'année. Un séjour destiné, je le disais, à poursuivre le dialogue autour de l'accord de Bougival, mais aussi à installer le comité de rédaction, Léo Fichou.
Oui, c'est le double objectif de cette visite, avec comme but essentiel, bien évidemment, de sauver l'accord de Bougival, comme vous le disiez, fragilisé par le rejet du FLNKS. Manuel Valls a dit qu'il vient pour expliquer, préciser, compléter et convaincre autant que nécessaire. Il a annoncé son intention de rencontrer le plus de Calédoniens possible. Il avait annoncé aussi vouloir s'entretenir avec les délégations politiques, bien sûr, mais avec également le Sénat coutumier, les maires, les forces économiques et sociales, ainsi que les personnels de santé. Et cela se traduit au travers de son programme. Son premier rendez-vous, c'est dès 8h15 ce matin, une réunion de travail avec les sénateurs coutumiers. Il rejoindra ensuite le Haut-Commissariat pour une réunion de travail avec cette fois-ci les maires et les présidents de province. Puis il aura cet après-midi une séquence de rencontres bilatérales avec chacun des groupes politiques et notamment le FLNKS. Il dînera ensuite avec des personnalités calédoniennes. Demain matin, Manuel Valls procédera à l'installation du comité de rédaction qui sera chargé d'affiner et de consolider les textes de loi constitutionnels et organiques. Le ministre des Outre-mer partira ensuite dans le Nord. Il visitera le centre médico-social de Vaud, puis il dînera avec les présidents des 4 aires coutumières en province Nord. Vendredi, Manuel Valls visitera le centre médico-social de Bouraille et de retour à Nouméa, il rencontrera l'équipe de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie. Il participera le soir à un débat télévisé pour un échange avec la société civile sur l'accord de Bougival. Samedi, enfin, au dernier jour de sa visite, le ministre des Outre-mer se rendra au marché de Gros de Ducos et il tiendra une réunion de travail avec le CESE.
Et à quelques heures de l'arrivée de Manuel Valls, hier, le bureau politique du FLNKS a publié un communiqué. Il répond aux déclarations faites par le ministre des Outre-mer et il appelle à la mobilisation pacifique de ses militants, Elisabeth Noir.
Un communiqué signé de son président, Christian Théin, qui indique que depuis que le FLNKS a publiquement annoncé ses positions et confirmé sa volonté de maintien du dialogue, plusieurs voix s'élèvent pour lui donner des leçons de responsabilité. Il estime ainsi que le ministre des Outre-mer semble engager d'ores et déjà un rapport de force et fait croire à l'opinion publique que sans l'accord de Bougival, la situation économique et sociale deviendrait chaotique. Le président du FLNKS affirme que mettre toute la responsabilité de la situation économique sur le 13 mai est un raccourci facile que ne sauraient accepter les indépendantistes. Il se plaint aussi que depuis le rejet formel en bloc du projet d'accord de Bougival, l'État et les acteurs politiques locaux stigmatisent le FLNKS. Or pour lui, le FLNKS n'a pas à se justifier ni à recevoir de leçons des anti-indépendantistes. Il poursuit en affirmant que pour atteindre une position acceptable, le dialogue doit se poursuivre et que les élections doivent se tenir à l'heure. Et il indique qu'à l'occasion de la visite du ministre des Outre-mer, les militants et sympathisants sont appelés à se mobiliser pacifiquement en affichant leurs couleurs.
En bref, le Haut-Commissariat dénonce la désinformation du groupe d'initiative Bakou. Cette mise en garde fait suite à la diffusion sur Facebook par le Bakou Initiative Group d'une vidéo censée représenter des violences policières contre une militante kanak. Contrairement à ce qui est affirmé dans cette publication, cette scène ne s'est pas déroulée en Nouvelle-Calédonie, mais à Milan, en Italie, le 24 mai 2023, précise le Haut-Commissariat. Il indique que partager ce type de contenu sorti de ce contexte alimente la peur, la confusion et peut nuire gravement à la cohésion sociale. Le Haut-Commissariat invite à toujours vérifier la source et la date d'une publication avant de la relayer et à privilégier les canaux officiels. Il encourage chacun à faire preuve de discernement et à s'informer par des sources fiables. Fin de citation. Il est 6h passé de 36 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. La suite de l'actualité sur le territoire, ce sera juste après la publicité avec notamment le dossier de la présidence de la province des îles.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Envie de changer de tête? Avec Palette de Schwarzkopf, participez au jeu Palette et moi jusqu'au 31 août. Postez votre photo avant, après, récoltez un max de likes et gagnez un relooking coiffure ainsi que des lots de la gamme Palette. Rendez-vous sur le Facebook Sac et Bon NC. À vos selfies, prêts, likez. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Citrita.
Dimanche 31 août, c'est le 42e marathon international de Nouvelle-Calédonie avec le concours et le soutien de la ville de Nouméa. Dès 7h, départ du marathon et semi-marathon mobile. 8h, le 10 km Toguyama. 10h30, course pour les enfants de 7 à 13 ans. Inscription en ligne jusqu'au dimanche 24 août ou à l'hippodrome du mardi 26 au vendredi 29 de 9h à 18h. Dossier d'inscription chez Running Conseil Nouméa. Attention, on se bat à fermer de 7h à 8h. Circulation perturbée sur les baies et promenade Pierre Vernier de 6h à 12h le 31 août au matin. Venez nombreux.
Du 20 au 24 août, c'est les jours complètement waouh dans vos magasins Auchan Auteuil et Auchan Kéferi. Avec votre carte de fidélité, profitez chaque jour de 5% de cagnottage supplémentaire sur un rayon différent ou sur nos produits Auchan. 5 jours, 5% de cagnottage en plus, waouh, ça vaut vraiment le coup. Détails de l'offre à retrouver sur les pages Facebook des magasins Auchan, le bon moins cher.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec la bataille juridique pour le siège de président de la province des îles qui se poursuit. Un dossier complexe qui passe par l'État, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Jacques Lallier s'appuie sur les dernières décisions rendues pour demander à retrouver ses fonctions de président de la province des îles. Il a d'ailleurs adressé un courrier en ce sens à Mathias Soineux qui lui a succédé à la présidence, dans lequel Jean-François Bodin, il l'informe qu'il reprend immédiatement l'ensemble de ses fonctions et qu'il réintégrera ses bureaux vendredi prochain.
Lors de son procès en appel pour favoritisme le 26 novembre 2024, le tribunal avait assorti la peine de 2 ans d'inéligibilité d'une exécution provisoire qui avait été signifiée 3 jours plus tard à Jacques Lallier par un arrêté du Haut-Commissariat. C'est-à-dire qu'à ce moment, il était déchu de ses mandats à la province des îles et au Congrès. Jacques Lallier avait ensuite formulé plusieurs recours. Il a d'abord introduit une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel concernant le bien fondé de la privation de ses mandats. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur le fond le 23 septembre. Parallèlement, l'ex-président de la province des îles avait saisi le Conseil d'État cette fois-ci, qui a rendu une ordonnance stipulant qu'en attendant la décision du Conseil constitutionnel, Jacques Lallier devait être rétabli dans ses fonctions. En clair, que l'exécution provisoire de son inéligibilité était suspendue. Les parties ont ensuite étudié ce dossier complexe et les services de l'État ont jugé que l'ordonnance du Conseil d'État ne constituait pas une jurisprudence et qu'elle ne s'appliquait pas à Jacques Lallier. Nouvelle offensive juridique de ce dernier, le 5 août dernier, par le biais d'un référé liberté devant le Conseil d'État qui a rendu une ordonnance le 12 août. Cette ordonnance confirme que l'exécution provisoire de sa peine d'inéligibilité est suspendue jusqu'à la décision sur le fond, qu'en attendant, il doit retrouver ses mandats et que l'Assemblée réunie le 27 décembre 2024 pour élire son successeur à la province des îles n'aurait jamais dû se tenir. C'est fort de ces arguments que Jacques Lallier entend bien retrouver son siège de président et il a informé en ce sens son successeur Mathias Soineux par un courrier en date du 14 août.
Je ne lui ai pas demandé, je lui ai simplement signifié les décisions du Conseil d'État. Donc j'ai simplement informé, accompagné d'un huissier, pour dire que je vais reprendre les locaux à partir de vendredi. Bon, au-delà de ce que lui il a déclaré par rapport à son élection, il a été fait selon le Conseil d'État. Après la période d'annulation, de suspension de l'arrêté du haut-commissaire, donc ça veut dire qu'à la limite, il n'avait pas lieu d'avoir une assemblée et d'être là. Je n'ai pas forcément de compte à lui rendre en tant que président, et puis de toute façon, s'il convoque, ça risque d'être nul au niveau du tribunal administratif. La hiérarchie veut que le Conseil d'État soit supérieur au tribunal administratif.
Jacques Lallier entend donc réintégrer ses bureaux et son poste. Mathias Soineux n'a évidemment pas la même analyse. Il estime que Jacques Lallier peut retrouver son mandat de conseiller, mais pas son siège de président. Mais Jacques Lallier entend aller jusqu'au bout.
Il a trouvé un mot pour parler à la presse, mais de toute façon, ici, on est à oui. Là, pour le moment, on a fait faire un constat d'huissier. Il va d'ailleurs faire un rapport et que je vais envoyer au commissaire qui a mis du temps pour appliquer la décision du Conseil d'État. Donc moi, j'ai prévu envoyer des courriers à partir de vendredi au service, aux différents trucs, quels que soient les desiderata du président actuel qui était minoritaire au VA. De toute façon, moi, je m'installe et puis c'est l'intérêt supérieur de la province des îles qui compte. Il faut faire l'état des lieux, il faut faire le compte administratif, le deuxième budget de la province et puis ensuite le budget primitif pour l'année prochaine.
Jacques Lallier et Mathias Ouaneux doivent donc se voir vendredi dans le bureau de la province des îles à Nouméa, puis lundi au siège de la province à Oué, sans que l'on sache exactement comment les choses vont se passer.
Dans le reste de l'actualité, en bref, toujours concernant les îles, le gouvernement lance aujourd'hui une enquête auprès des passagers d'Air Calédonie en vue du déménagement à la Tontouta. Enquête qui durera au moins 4 journées à l'aéroport de Magenta et qui prendra la forme d'un court entretien oral afin de connaître les préférences en matière de transport pour rejoindre la Tontouta. Les données collectées permettront notamment de dimensionner l'offre et d'évaluer la capacité nécessaire des parkings.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, la réponse à notre question d'hier. 69% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que le déménagement d'Air Calédonie à Tontouta va bien arriver à son terme. Ils sont 31% à penser que ce ne sera pas le cas. Voici maintenant notre question du jour. Jacques Lallier, a-t-il raison, selon vous, de vouloir récupérer son fauteuil de président de la province des îles Loyauté? Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Dans l'actualité institutionnelle, un raté hier matin au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, la traditionnelle séance des questions au gouvernement a dû être annulée, faute de quorum, Léo Fichou.
Oui, il n'y avait pas assez d'élus hier matin dans l'hémicycle du boulevard Vauban pour cette séance des questions orales au gouvernement qui doit être organisée au moins une fois par session ordinaire. Seuls les élus du Rassemblement, des Loyalistes et de Calédonie Ensemble étaient présents et après une heure d'attente, la présidente du Congrès a pris acte que le quorum n'était pas atteint. En principe, la séance aurait dû être reportée à aujourd'hui, mais en raison de l'arrivée du ministre des Outre-mer, il était compliqué que les élus se retrouvent. En conséquence, les groupes loyalistes et rassemblements ont choisi de retirer les questions qu'ils avaient déposées et la séance ne sera pas reprogrammée. C'est la première fois qu'une séance de questions au gouvernement est annulée, faute de quorum, et le président du gouvernement, Alcide Ponga, a souhaité que ce type de situation ne se reproduise pas.
Il faut qu'on essaye de se caler avec l'ensemble des chefs de groupe ici au Congrès. On a la caméra qui est ici, qui nous filme, etc. et tout. Donc voilà, tout ça, faut, quand on dit qu'on fait, on essaie de le faire. Puis ça soit bien, qu'on avance ensemble dessus. Quoi. Et c'est un peu regrettable là, ce matin. Et c'est juste, bon, les collègues sont ici, d'autres ne sont pas là et tout. Donc on essaie de ne pas reproduire ça, merci.
À noter qu'il y a quelques temps déjà, une séance de questions au gouvernement n'avait pas pu se tenir, mais c'est parce qu'aucune question n'avait été déposée par les élus. J'ajoute que le bureau du Congrès étudie par ailleurs la possibilité d'annuler également la séance publique qui était prévue demain. Elle avait été programmée avant l'annonce de la visite de Manuel Valls, qui doit installer ce jeudi le comité de rédaction en présence de plusieurs élus du Congrès qui sont signataires de Bougival.
Et puis en bref, l'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie qui tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Les réserves de sang sont jugées insuffisantes, en particulier pour les groupes O et AB. L'association rappelle que chaque don peut sauver plusieurs vies et invite la population à se mobiliser rapidement. Les volontaires peuvent se rendre directement dans le centre de collecte de sang le plus proche de chez eux. Puis un rendez-vous sur notre antenne maintenant, du 12 au 27 août, c'est la semaine Escoffier, un événement consacré à la gastronomie pour lequel les disciples d'Escoffier ont fait venir en Nouvelle-Calédonie le chef Frédéric Jauneau, meilleur ouvrier de France. Il est aussi champion de France des desserts et champion d'Europe de sculpture sur fruits. Nous parlerons de sa passion pour la gastronomie et sur sa découverte des saveurs calédoniennes tout à l'heure à 7h30, puisque Frédéric Jauneau sera notre invité du matin. En attendant, il est 6h45, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité internationale et cette rencontre qui se profile entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook. À toutes les Calédoniennes, la Nouméa NoPT célèbre sa 20e édition. Pour cette occasion très spéciale, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 octobre à l'Hippodrome Henri Millard pour une matinée solidaire dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Stands thématiques, marches et surprises vous attendent pour ce grand moment de partage 100% féminin. Inscrivez-vous vite sur www.inlife.nc. Plus d'infos sur la page Facebook La Nouméa NoPT.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin avec l'actualité à l'étranger, on retrouve Nicolas Legrand.
Et c'est donc la principale information à retenir du sommet de Washington. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont bientôt se rencontrer. La décision a été prise, selon plusieurs sources, à l'occasion d'un appel téléphonique entre Donald Trump et le chef du Kremlin, grand absent de cette rencontre à Washington. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine qui pourraient se retrouver d'ici la fin du mois d'août. Une réunion qui commence déjà à s'organiser. Alexis Bourdon pour Europe 1.
Oui, cela pourrait prendre au moins 2 semaines. Pour le moment, on ignore où se fera cette réunion au sommet. Si Vladimir Poutine a proposé Moscou pour Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes, la Suisse semble faire figure de candidat naturel pour accueillir les chefs d'État.
Le ministre des Affaires étrangères de la Confédération suisse a affirmé que si Vladimir Poutine se rendait dans son pays pour une conférence de la paix, eh bien, il recevrait une sorte d'immunité diplomatique qui fait qu'il ne pourrait être interpellé. De surcroît, Genève, c'est le siège des Nations Unies, donc on voit bien en effet que c'est un lieu idéal pour recevoir Vladimir Poutine, Donald Trump et Volodymyr Zelensky.
Les détails de cette rencontre restent assez flous et notamment sur les sujets de discussion. Si Kiev espère obtenir des garanties de sécurité, Moscou pourrait en profiter pour obtenir des concessions territoriales avec dans son viseur le Donbass. De son côté, Donald Trump a confié sur la chaîne de télévision américaine Fox News que Volodymyr Zelensky devait se montrer flexible pour trouver une issue à cette guerre.
La Russie qui annonce par ailleurs ces dernières heures avoir rendu à l'Ukraine les corps de 1000 soldats, la plupart tombés au front ou morts en captivité. Kiev, de son côté, a rendu 19 corps de soldats russes. Et après cette rencontre à Washington, s'est tenu un sommet de la coalition des volontaires. Une réunion coprésidée par Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, au lendemain des discussions à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens. Le président de la République qui poursuit donc son travail de négociateur, Alexis de la Fontaine.
Oui, Emmanuel Macron endosse le rôle du président hyperactif, présent sur toutes les photos, participant à toutes les réunions de la coalition des volontaires jusqu'au Conseil de l'Europe. Il se place au cœur des négociations, car selon lui, le temps presse.
Donc les 15 jours qui viennent sont absolument critiques. Nous, pour finaliser le travail avec les Américains, pour mettre de la substance sur les garanties de sécurité, très important. Mais surtout, on va lever les ambiguïtés. Est-ce que le président Poutine veut vraiment la paix ? On le saura. S'il fait cette réunion à 2 puis à 3, c'est qu'il le veut.
Emmanuel Macron souhaite également rencontrer Vladimir Poutine lors d'une réunion quadrilatérale. La diplomatie, ce n'est pas de la morale, justifie le président, alors que son homologue fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais avant cela, la première étape reste la réunion entre les présidents russes et ukrainiens dans les prochains jours. Vladimir Poutine propose Moscou, Emmanuel Macron plaide pour Genève, en terrain neutre, ce qui signerait une première victoire pour le chef de l'État.
Alexis de la Fontaine pour Europe 1. Direction Gaza maintenant, avec l'espoir d'un cessez-le-feu après 22 mois de guerre. Vous le savez, il y a eu plusieurs mois de tentatives de négociations infructueuses, mais hier, le Hamas a annoncé avoir accepté la proposition formulée par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Le Caire qui affirme aujourd'hui que la balle est désormais dans le camp israélien, Laura Legault.
Eh bien, cette proposition d'accord ressemble fortement à un plan de trêve porté par l'émissaire américain Steve Witkoff. Il prévoit un arrêt des combats pendant 60 jours, le retour en Israël de 10 otages vivants et de la moitié des dépouilles d'Israéliens décédés dans la bande de Gaza. Les otages restants seraient libérés lors d'une deuxième phase. Certains points doivent encore être négociés, comme l'identité des prisonniers palestiniens libérés et le retrait de l'armée israélienne de Gaza. Pour accepter cet accord, le Hamas a revu ses exigences à la baisse, comme l'explique Maxime Pérez, ancien correspondant au Proche-Orient et analyste défense.
Il semblerait que c'est cette pression militaire, ou en tout cas des menaces comme celle de réoccuper la ville de Gaza City, qui a poussé le Hamas à faire des concessions dans cette négociation qui dure depuis maintenant près de 22 mois.
Côté israélien, un point pourrait bloquer. Benjamin Netanyahou l'a affirmé la semaine dernière. Il n'y aura pas d'accord si tous les otages ne sont pas libérés d'un seul coup. Selon la presse israélienne, le gouvernement devrait répondre à la proposition avant la fin de la semaine. Et si les négociations reprennent, les opérations militaires israéliennes se poursuivent dans la bande de Gaza.
Laura Legault pour Europe 1. En bref, Benjamin Netanyahou accuse Emmanuel Macron d'alimenter le feu de l'antisémitisme en France. Dans un courrier officiel, le Premier ministre israélien affirme que l'appel de la France à reconnaître un État de Palestine alimente la haine des Juifs. Il lui demande donc d'agir contre l'antisémitisme avant le 23 septembre, date de la nouvelle année juive. Jusqu'où ira Rima Hassan, la députée européenne, la France insoumise, fait l'objet d'une nouvelle plainte après un tweet. Elle s'en prend à un imam, Hassem Chalgoumi. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Sur ce tweet, trois noms superposés. D'abord Balti puis Slaoui, deux influenceurs de confession musulmane qui n'épousent pas les idées de Rima Hassan sur Gaza. Et puis le troisième nom, Chalgoumi, imam qui défend un islam modéré avec une horloge à côté de son nom. Un tweet menaçant selon Jonas Haddad, avocat de l'imam Chalgoumi, qui a donc porté plainte.
Le motif de la plainte, c'est l'incitation, si vous voulez, à la violence. Ça peut être également la menace, puisque c'est une menace très très claire qui a été portée. Et ça peut être aussi une incitation à des homicides ou d'autres choses.
Plusieurs interprétations à ce tweet sont possibles, par exemple que les heures de l'imam sont comptées. Pour mettre Jonas Haddad, en faisant cela, Rima Hassan cherche à mettre une cible dans le dos des musulmans trop modérés à son goût.
Ce qu'est en train de faire là Rima Hassan cet été, c'est de faire le tri entre les bons et les mauvais de celles qu'ils considèrent comme étant dans la communauté. Donc on se livre là à l'été des fatwas.
Habitué des polémiques et des convocations par la police, c'est donc ici la 15e plainte déposée contre Rima Hassan en l'espace de 2 ans. Elle qui a déjà fait l'objet de procédures pour menaces de mort ou encore apologie du terrorisme.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Dans le reste de l'actualité ce matin, Gérald Darmanin en visite à la maison d'arrêt de Nîmes. Le ministre de la Justice, qui vous le savez, avait annulé son déplacement dans cet établissement la semaine dernière après la découverte d'une table de massage pour les détenus. C'est donc la nuit dernière que Gérald Darmanin a inauguré une extension de cette prison et il veut en effet redonner plus de pouvoir et des moyens supplémentaires aux équipes pénitentiaires.
Moi, je vois des agents pénitentiaires fatigués. Je vois des agents pénitentiaires qui sont en sous-nombre par rapport aux détenus qu'ils doivent gérer. Je vois que dans des prisons qui sont censées être des lieux où on est privé de contact avec l'extérieur, on trouve des téléphones, on trouve de la drogue, on trouve des couteaux en céramique. Il y a des agents pénitentiaires qu'il faut en effet soutenir contre le narcotrafic et contre la violence. Il n'y a pas assez d'agents pénitentiaires. Donc pour la première fois, on va recruter 1000 agents pénitentiaires supplémentaires en plus des départs en retraite l'année prochaine.
Plus de moyens et plus de places en prison. L'établissement de Nîmes, par exemple, augmente sa capacité d'accueil de 150 places. Gérald Darmanin, qui par ailleurs a envoyé une circulaire au préfet, le garde des Sceaux, qui leur demande d'être plus vigilant concernant les mariages blancs qui sont, selon lui, trop nombreux sur le territoire national. Il a été donc interrogé sur ce sujet à l'occasion de cette visite à Nîmes. Écoutez.
Je veux assurer au maire de France notre parfait soutien au ministère de la Justice pour lutter contre les mariages frauduleux. Le maire ou l'officier d'état civil, quand il marie, il ne le fait pas en tant qu'élu, il le fait en tant qu'agent de l'État. J'ai demandé par cette instruction de pouvoir faire confiance par nature au maire et lorsqu'un mariage est frauduleux, il ne faut pas qu'il puisse se dérouler. Moi, je souhaite désormais que les procureurs de la République soutiennent les maires lorsque les informations que les maires leur donnent une suspicion assez importante. Le mariage, c'est l'épreuve d'un consentement, c'est fonder une famille sur le territoire national, quelle que soit sa nationalité, bien évidemment, mais ce n'est pas utiliser les règles de la République pour pouvoir détourner une belle institution républicaine.
Gérald Darmanin à Nîmes au micro Europe 1 de Stéphane Burgat. Il est 6h54, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive en compagnie de Léo Fichou et notamment ses petits problèmes à l'OM.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Avec Nescafé, chaque pause peut te faire gagner une surprise.
Du 1er juillet au 31 août, tente de trouver une dosette dorée dans tes boîtes Nescafé Stick préférées pour avoir une chance de gagner l'un des 15 lots high-tech.
iPhone, console, casque ou enceinte JBL, appareil photo, tablette, il y en a pour tous les goûts.
Alors rends-toi vite en magasin et trouve la dosette dorée Nescafé.
Gagne des cadeaux bonus en jouant sur la page Facebook Nescafé NC ou directement chez Nestlé. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 1er juillet au 31 août 2025. Voir règlement complet chez Nestlé ou sur la page Facebook Nescafé NC.
La ville de Nouméa, accompagnée des disciples d'Escoffier, vous propose un jeudi du centre-ville spécial gastronomie. Stand de fruits et légumes, produits agricoles et de la mer, art de la table et dégustation. Venez également à la rencontre de notre invité d'honneur, le chef Frédéric Jauneau, meilleur ouvrier de France primeur 2011, meilleur pâtissier de France et champion d'Europe de sculpture sur légumes. Rendez-vous sur la place des Cocotiers, jeudi 21 août de 9h à 19h. Info sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa ma ville. Ville de Nouméa ? Partageons l'événement.
Savez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et le sport, c'est du football ce matin en métropole. Après seulement une journée en Ligue 1, rien ne va plus à l'Olympique de Marseille, Léo Fichou.
Oui, le week-end dernier, les Marseillais ont démarré leur saison par une défaite, 1-0 sur la pelouse du Stade Rennais. Jusque-là, rien de grave. Et pourtant, en marge de la rencontre, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Ils ont été directement écartés du groupe. Mais ces dernières heures, l'Olympique de Marseille a annoncé par voie de communiqué que les deux joueurs sont placés sur la liste des transferts. Une décision prise, je cite, en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire, en accord avec le staff technique et en application bien évidemment du code de conduite interne au club. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe devraient donc rapidement quitter l'OM, qui a d'ailleurs fixé le prix du français à 15 millions d'euros et de l'anglais à 20 millions. Le club phocéen qui recevra le Paris FC ce week-end dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1.
Du tennis avec les qualifications à l'US Open qui ont commencé la nuit dernière.
Et la première nouvelle, mauvaise pour le coup, c'est que Terence Atman a déclaré forfait après sa demi-finale à Cincinnati. Le Français souffre de plusieurs blessures au pied. On retrouvera tout de même de nombreux tricolores engagés dans ces qualifications à l'US Open. 14 hommes, 5 dames. Arthur Cazaux, vainqueur du Challenger de Nouméa en 2024 et tête de série numéro 1 de ses qualifs, a remporté son premier tour, tout comme Harold Mayo, Lucas Van Hache, Varvara Gracheva ou encore Manon Léonard.
Et puis un mot de sport sur le territoire avec du golf et la deuxième journée du South Pacific Junior Open.
Les Greens de Tina accueillent depuis hier la 9e édition de cette compétition internationale qui rassemble 38 jeunes golfeurs, dont 4 Australiens et une Polynésienne. Après la première journée, c'est le Calédonien Hugo Koch, licencié au golf de Tina, qui est en tête. Il a rendu une carte de 69, soit 3 coups sous le par. Derrière lui, on retrouve un autre golfeur de Tina, Nico Tavergeux, à moins 1. Jaya Darazon, du golf club de la Wengi, complète le podium. Il a lui réalisé le par. Ce mercredi, le premier départ se fera à 8h50, le dernier peu après 10h30.
Merci beaucoup Léo Fichou, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, nous sommes en vigilance jaune avec un vent violent. Ce sera sur Belley, Pumuegua et Puebo. Analysé orienté sud-est entre 25 et 30 nœuds avec des rafales jusqu'à 40 nœuds aux environs de 75 km/h. C'est pour aujourd'hui, mercredi et cette nuit. Ce matin, le ciel sera couvert avec des pluies intermittentes faibles à modérées qui épargnera en général la pointe nord et Belley. Le vent orienté sud-est, 20 à 25 nœuds et des rafales à 30 nœuds pour ce matin. 25 à 30 nœuds et des rafales plus fortes entre 35 nœuds voire 40 nœuds sur le nord-est et la pointe nord. En revanche, il sera un peu moins fort, entre 15 et 20 nœuds sur le sud et le nord-ouest. Cet après-midi, toujours un temps gris avec des pluies généralement faibles et intermittentes, mais qui pourront être modérées sur le nord-est et le sud. Alors le vent orienté sud-est, toujours 20 à 25 nœuds, jusqu'à 30 nœuds et jusqu'à 30 voire 40 nœuds sur le nord-est et la pointe nord. Les températures compris en général entre 20 et 24 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.